Sujet de discussion.
Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Sujet de discussion. Aujourd'hui, nous abordons un sujet grave et malheureux, encore trop présent dans nos sociétés, le viol et les agressions sexuelles. Ces actes qui brisent des vies sont souvent entourés de silence, de tabous et parfois même d'impunité. Pourtant, il est essentiel d'en parler, de sensibiliser et d'agir pour protéger les victimes et garantir l'accès à la justice. Lutte contre le viol et les agressions sexuelles, briser le cycle, agir pour la justice est donc le thème qui nous réunit ce jour. Au cours de cette émission, nous tenterons de comprendre les mécanismes qui alimentent ces violences, d'identifier les moyens pour briser ce cycle et surtout de réfléchir ensemble aux actions nécessaires pour bâtir une société plus juste et sécurisée pour tous. Pour cela, nous avons le privilège de recevoir deux membres de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Nous commençons par Yoboué Charlotte Kofi. Bonjour.
Bonjour.
Et nous avons aussi Lydie Pascaline Kofi, bonjour à vous.
Bonjour.
Et à leur côté, nous avons donc le seul homme de ce jour, Dr Alain Trésor Dibi, sociologue, expert en genre et directeur des projets à l'ONG Bloom. Bonjour docteur.
Bonjour.
Alors soyez les bienvenus encore à Radio de la Paix.
Merci.
Ensemble, nous allons donc explorer les solutions pour faire face à ce fléau et soutenir les victimes dans leur quête de justice et de dignité. Alors on va commencer donc, chers invités, à en apprendre un peu plus sur vos différentes ONG. Et on va commencer par l'Association des femmes juristes. Et ce sera avec Lydie Pascaline. Parlez-nous un peu de cette association.
Merci madame. L'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, à sa tête Maître Akangui Francine, qui est la 9e présidente de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Vous voyez comment chez nous c'est la démocratie. Et donc nous avons deux mandats au niveau de l'Association des femmes juristes. Ça fait 40 ans que nous existons. Nous sommes là depuis 1984. Et cette association a son sein des magistrats, des commissaires de justice, des notaires, des avocats et des juristes. Même des juristes d'entreprise, tout ça font partie de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Et ce qui donne le label de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, ce sont ces cliniques juridiques qui sont sur le territoire national de la Côte d'Ivoire. Nous avons 12 cliniques juridiques et ces cliniques juridiques sont à l'intérieur du pays et à Abidjan. Vous sentez Boaké, Mans, San Pedro, partout, pour dire que l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire est proche des justiciables et lorsqu'il y a un petit souci au niveau juridique, on peut saisir l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire.
Mmh. Et voilà. Quelles sont les principales causes que vous défendez?
Plusieurs causes, mais surtout des personnes victimes de VBG, violences faites aux femmes, les enfants vulnérables, mais aussi des hommes, hein, le foncier aussi, les personnes qui viennent pour le foncier, toutes les personnes qui viennent pour exposer des problèmes juridiques, nous sommes là, l'association, pour les aider.
D'accord.
Et nous soutenons plus les personnes vulnérables.
Mmh. Alors, vous soutenez plus les personnes vulnérables. On va donc se tourner vers Dr Dibi. Parlez-nous un peu de l'ONG Bloom.
D'accord, merci beaucoup de cette occasion que nous vous offrez à l'ONG Bloom pour participer à cette belle émission. L'ONG Bloom est une organisation non gouvernementale qui a été créée en 2018. Cela fait maintenant 6 ans d'existence et elle a été créée sous l'inspiration de Madame Danielle Lidegwe, épouse Cissé. L'ONG Bloom vise donc 3 missions essentielles, à savoir la lutte contre les violences basées sur le genre, l'autonomisation de la femme, l'éducation et l'alphabétisation de celle-ci. Nous avons en tout 38 sections, 38 bureaux dans le pays. Dans le Grand Abidjan, nous avons 17 sections, 17 bureaux et à l'intérieur, 21 sections. Nous sommes aujourd'hui à près de 9000 membres adhérentes comme personnes d'honneur qui sont dans l'ONG Bloom.
Voilà donc ainsi présentées nos différentes associations ici présentes. Alors on va entrer dans le vif du sujet. On va commencer par définir ce que c'est que le viol. Parce qu'on peut souvent se méprendre sur cet acte-là. Et on va rester avec Dr Dibi. Comment chez vous, vous définissez le viol? Qu'est-ce qu'on appelle un viol?
On pourrait dire que un viol, c'est un acte, si on reste donc ici dans la définition juridique, un viol, c'est un acte préjudiciable perpétré par une personne ou un groupe social donné en raison de plusieurs facteurs sociaux, à savoir le sexe, le genre, l'orientation sexuelle et l'identité de genre réelle ou perçue qu'on a donc d'une personne lambda. Donc c'est un acte toujours orienté d'un point de vue idéologique qui pose donc ici des problèmes physiques ou émotionnels à certaines personnes quand à notre niveau nous rencontrons à l'ONG Bloom.
Et donc les femmes juristes qui sont spécialisées donc dans le suivi juridique des victimes de viol, comment est-ce que juridiquement on définit un viol?
Ok, merci.
Le viol est selon l'article 403 du Code pénal ivoirien. Le viol, c'est tout acte de pénétration vaginale, anale, buccale ou de quelque nature qu'il soit à but sexuel imposé à autrui sans son consentement, en usant d'une partie du corps humain ou d'un objet par violence, menace, contrainte ou surprise. C'est ainsi que le Code pénal ivoirien décrit le viol.
Et donc, on voit que vous avez insisté sur la partie du consentement. C'est important lorsqu'on parle de viol?
Oui, c'est important parce que en cas de viol, on recherche le consentement de la victime. Est-ce que la victime était consentante? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de viol dans les couples.
Les viols conjugales.
D'accord.
Parce que les gens diront, moi je suis mariée avec ma femme, j'ai le droit d'avoir des rapports sexuels avec elle, c'est mon droit. En tant qu'homme, quand j'ai besoin, elle doit normalement céder. Mais un rapport sexuel, c'est un rapport qui doit être bien fait pour toutes les deux personnes. Ce n'est pas un rapport avec brutalité. Mmh. Et donc, il faut toujours avoir le consentement, même si c'est votre épouse, d'avoir le consentement de la personne avant de pouvoir passer à l'acte. Mmh. Exactement.
D'accord. Alors, donc, c'est ce qui nous introduit donc dans notre deuxième question. On parle là maintenant des différents types de viols. Et là, on a cité le viol conjugal. Docteur Dibi, quels sont les autres types de viols qu'on peut avoir? Quels sont les autres types que vous avez rencontrés dans vos activités?
Nous avons six types de viols, disons, de violences, d'agressions, des VBG. On a les violences physiques. Nous avons les violences émotionnelles ou psychologiques. Nous avons les violences sexuelles, comme vient de dire madame. Nous avons également les viols. On a aussi les dénis des ressources, d'opportunités et des services. On a le mariage forcé. À l'ONG Bloom, nous rencontrons, en grosso modo, trois types de violences. Nous avons donc aussi les dénis des ressources, d'opportunités et des services que nous rencontrons beaucoup. Parce que les cas de VBG que nous rencontrons sont des personnes qui n'ont pas des ressources financières. Elles sont généralement démunies, ce qui fait qu'elles sont sujettes de beaucoup de violences de la part de leurs conjoints, de leur entourage et autres. Et ces personnes-là sont reçues à l'ONG Bloom. Nous avons également dans la plupart des cas de violences émotionnelles. Et dans ce cas-là, nous prenons en charge ces personnes par une prise en charge psychologique. Nous avons donc un sociologue et un psychologue qui s'occupent de ces personnes, de ces femmes-là à l'ONG Bloom. Nous avons aussi des cas de violences physiques. Nous acceptons ces personnes-là et pour des réparations psychologiques. Et ce sont ces trois types de cas-là que nous rencontrons généralement à l'ONG Bloom.
Et vous, à l'association des femmes juristes, Lydie,
quand même revenir un peu sur la définition même de
la violence d'abord.
Une violence basée sur un désir, tout acte nuisible perpétré, on revient encore contre le gré d'autrui et qui est basée sur des différences socialement prescrites entre une femme et puis un homme, ou une fille ou un garçon, parce qu'on dira, pour elle, c'est une fille, donc elle ne doit pas aller à l'école, celui-là, c'est un garçon, il ne doit pas rentrer dans la cuisine, il y a tout ça. Mais les six types de VBG qui ont été consentis par l'État des Côte d'Ivoire, le premier type, c'est le viol. Mm-hmm. Le plus grand titre, en fait, parce que c'est sur ça qu'on se base pour faire surtout le consentement. Le viol, l'agression sexuelle, l'agression physique, le mariage forcé, le déni de ressources et les violences psychologiques. Donc, quand nous nous fondons sur le viol aujourd'hui dont nous parlons, c'est dans la typologie du viol que vous allez trouver l'harcèlement sexuel, le viol conjugal, tout ça se trouve dans la typologie du viol. Voilà. Donc, au niveau de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, toutes les personnes que nous recevons, très souvent, les femmes que nous recevons, elles sont victimes de plusieurs types de violences. Il y a des viols, c'est vrai, mais très souvent, on passe sur des dénis des ressources. Parce qu'après un divorce, ou bien après que des personnes décident de se séparer sans mariage légal, il y a des personnes qui n'arrivent pas vraiment à s'occuper, même d'elles-mêmes, à plusieurs raisons, à s'occuper des enfants. Donc, nous rencontrons beaucoup toutes ces personnes-là qui viennent dans nos cliniques juridiques pour avoir des orientations juridiques. Et lorsque nous avons des projets, on peut les accompagner au niveau judiciaire, au niveau du tribunal.
On a entendu beaucoup déni de ressources. Madame Charlotte Kofi, c'est quoi un déni de ressources?
Le déni de ressources, c'est le fait de dénier un droit à une personne. Comme elle a dit tout à l'heure, il y a divorce. La dame n'a pas le moyen de pouvoir s'occuper d'elle-même et de ses enfants. Or, elle a droit à certains avantages issus de ce divorce-là, mais elle ne peut pas. Suite peut-être à l'agissement de l'homme, il y a ce cas. Il y a aussi dans le cas du foncier. En Côte d'Ivoire, on nous dit que la terre appartient aux hommes. Généralement, les femmes n'ont pas droit à la terre. Ça, c'est un déni de service. Voilà. Ça rentre dans le grand groupe de déni de ressources, d'opportunités et de services. Voilà, c'est le fait de dénier à quelqu'un un droit.
D'accord, ok.
Non, je reviens un peu sur le foncier pour dire, non, oui, pas que l'État de Côte d'Ivoire dit que la terre appartient aux hommes, mais dans la pratique, dans la pratique, très souvent au niveau de l'Ouest, moi je viens de l'Ouest, et on nous dit par exemple, vous êtes femme, vous ne pouvez pas avoir droit à la terre parce que vous allez aller vous marier, donc vous ne pouvez pas prendre l'héritage de la famille pour aller donner à votre mari. Il se trouve que là où vous êtes mariée aussi, vous ne bénéficiez pas de la terre parce que là-bas aussi, on dit, vous êtes étrangère. Donc, du coup, la femme, elle est au milieu, elle n'a pas de ressources. Mmh. Donc, c'est pour ça que depuis 1988, et on a pris la loi pour dire la terre appartient à tout le monde. Que tu sois femme ou garçon, la terre, avec la loi de 1988, pris par l'État de Côte d'Ivoire, au niveau du foncier, que vous savez, une femme ou un homme, ou si vous devez bénéficier de la terre, vous devez en jouir.
D'accord.
Au niveau de l'école, comme depuis très longtemps, les jeunes filles, leur place, et même on disait la place de la femme, c'est à la cuisine, selon un adage bien populaire. Donc là, on lui enlève une certaine opportunité de pouvoir s'affranchir demain.
Je voulais renchérir pour dire que c'est vrai, actuellement, la loi de 1988 ici permet aussi bien aux hommes qu'aux femmes de s'approprier donc, de cette ressource foncière, mais elle est mal connue en fait. Ce qui fait que nous, en tant qu'organisation non gouvernementale, qui sommes beaucoup sur le terrain, rencontrant ces gens de problèmes-là, avec les populations surtout féminines, qui ne savent pas qu'il y a une loi qui les protège et qui leur permettra donc ici de rentrer en possession de ce droit foncier-là. Aujourd'hui, ce qui fait qu'il y a toujours une emprise du système politique traditionnel qu'est le patriarcat, qui est aujourd'hui une barrière sociale et même idéologique au niveau de ces acteurs-là, qui, après la disparition, par exemple, du père ou du mari, se retrouvent malheureusement avec les enfants démunis, chassés par la belle famille ou par des personnes lambda qui se disent donc ici pourvoyeurs de ces ressources. Malheureusement, c'est aujourd'hui ces gens des cas-là que nous rencontrons beaucoup. Et nous, en tant qu'organisation d'assaut civil, nous essayons quand même de sensibiliser ces acteurs-là, surtout les femmes, pour les amener donc ici à connaître leurs droits dans ces sociétés traditionnelles rurales, parce que c'est là-bas que se trouve beaucoup l'ignorance ici des lois. Et nous, avec Madame Cissé, nous essayons de rentrer en contact avec ces organisations féminines locales pour leur apprendre leurs droits fondamentaux qui serviront donc ici au niveau local de relais pour aller échanger avec les leaders d'opinion tels que les chefs traditionnels et autres. Donc aujourd'hui, le combat se trouve donc dans la sensibilisation pour leur montrer que le déni des ressources n'est qu'une vue d'esprit hein, et que chacun a le droit donc, de posséder ce qu'il a comme ressource, aussi bien au niveau familial qu'au niveau du couple.
Voilà, donc qui est dit. Et donc là, le secret, c'est la sensibilisation donc, pour aider toutes ces femmes-là à prendre conscience de leurs droits. Alors, on va revenir donc sur notre sujet principal. Ici, on parle d'agression sexuelle et de viol. Et juridiquement, comment est-ce que ça se passe? Quelles sont les étapes pour une victime lorsqu'elle veut porter plainte? Quelles sont les étapes à suivre, Lydie?
Lorsqu'une personne est victime de viol, la première étape, c'est d'aller à l'hôpital.
Aller à l'hôpital, bon. Ok.
C'est vrai qu'on a une prise en charge holistique, mais dès que tu es victime de viol, va d'abord à l'hôpital. Mm-hmm. Et quand vous finissez l'hôpital, vous venez maintenant porter la plainte.
Okay.
Parce que si vous tardez, vous êtes 3 jours pour aller à l'hôpital, finalement, les preuves seront minimes. Mm-hmm. Pas que vous ne pouvez pas porter la plainte, les preuves seront minimes. Mm-hmm. Mais dans tout état de cause, on portera toujours une plainte lorsqu'on a un viol. Mais il est essentiel de partir d'abord à l'hôpital et de venir maintenant porter votre plainte au niveau du commissariat ou de saisir directement le procureur.
Donc, voilà. Il est important de partir tôt à l'hôpital pour recueillir toutes les preuves nécessaires. Mais vous, docteur Dibi, on sait que ce n'est pas évident. Lorsqu'une personne a été violée, là, tout de suite, d'aller à l'hôpital. Comment est-ce que vous faites pour suivre ces personnes-là qui sont victimes de viol, pour les aider donc à suivre le processus légal?
D'accord, merci. Ce qu'elle vient de dire est valable également à l'ONG Bloom. Quand on a un cas, immédiatement c'est l'hôpital pour pouvoir essayer de circoncire donc ici le problème, si c'est un cas de viol par exemple. Mais nous, au-delà de ça, on fait une prise en charge holistique. Et c'est la particularité donc ici de l'ONG Bloom. Aujourd'hui, nous sommes focalisés sur une prise en charge holistique, un accompagnement qui d'abord consiste à une prise en charge psychosociale. Voilà, donc d'abord, quand on finit la prise en charge médicale, on essaie quand même de calmer la personne qui est violentée parce que là, il y a un traumatisme en fait. Et cette personne-là, elle est écoutée par des spécialistes en la matière qui sont à l'ONG Bloom. Et cette victime, c'est important de la calmer parce que quand elle est traumatisée, elle subit une dépression en fait. Et nous avons rencontré ce genre de cas. Donc on la calme pour comprendre ce qui s'est passé, les origines aussi, les causes du problème. Ça nous permet, nous, à notre niveau déjà, de commencer à mobiliser donc, la batterie d'un point de vue donc, c'est des actions à mener sur le terrain. Et au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on puisse avoir toutes les informations possibles pour pouvoir agir.
Donc, le suivi psychologique est aussi important donc, dans le suivi de ces victimes-là. Alors, tout à l'heure, on parlait aussi de sensibilisation des populations. Comment est-ce qu'on peut sensibiliser les femmes en matière d'agression sexuelle aujourd'hui sur leurs droits? Parce qu'on entend beaucoup que lorsque tu as été violée, bon, c'est mieux de te taire parce que sinon on va te critiquer dans la société. Comment est-ce que l'Association des femmes juristes aide à sensibiliser les femmes donc, en matière de droits au niveau des agressions sexuelles?
Effectivement, à l'Association des femmes juristes, nous avons des activités de sensibilisation. Et parmi ces activités, nous avons des activités grand public, des focus group, et même l'émission radio constitue un moyen de sensibilisation. Et lorsque nous partons sur le terrain, nous nous basons sur les tests juridiques, les tests de loi. C'est avec ces tests-là que nous faisons la promotion pour leur demander de porter plainte, de ne pas avoir peur, qu'elles sont protégées par la loi. Aussi, au-delà de ça, au-delà de la plainte, il y a aussi des dénonciations. Ça peut se faire de façon anonyme. Et le code de procédure pénale permet à toute association légalement constituée de pouvoir accompagner et de se constituer partie civile pour la victime. Et c'est tout un ensemble d'activités qui nous permet de véhiculer le message et de sensibiliser les populations. Généralement, ce sont des personnes vulnérables. Vulnérables qui veut dire qu'ils n'ont pas grand moyen. Voilà. Donc, à travers nos sensibilisations, nous les emmenons à se diriger vers les organes de poursuite pour qu'elles puissent porter leurs plaintes. Vu les pesanteurs sociaux, culturels. Voilà. Donc, ces sensibilisations grand public, les émissions radio, comme nous faisons actuellement, nous permettent de véhiculer le message. À travers le financement des bailleurs, certaines collaborations avec d'autres organisations.
Avec nos collaborations avec plusieurs ONG, c'est vrai que nous avons aussi la confiance de nos partenaires techniques et financiers. Et nous avons plusieurs projets au niveau de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Et au sein de ces projets-là, nous misons plus sur la sensibilisation pour permettre à toutes les populations, que ça soit à Abidjan comme à l'intérieur, comme je vous l'ai dit, nos cliniques sont à l'intérieur, permettre de toucher le maximum de populations et de leur demander surtout de dénoncer, surtout de porter plainte. Et là, nous avons même plusieurs projets comme l'accès à la justice, un projet avec l'accès à la justice. Et nous demandons dans ce projet aux populations de ne pas avoir peur de saisir la justice en tout lieu, en tout temps, parce que c'est en allant à la justice que vous pouvez avoir vos droits et surtout avoir des dommages et intérêts, parce que nul ne doit se faire justice. Voilà. Et donc, avec toutes ces collaborations avec l'ONG Nbou, nous avons avec plusieurs ONG, aussi à l'ONG Akwaba Mousso, avec qui nous travaillons au niveau psychologique, social, tout ça, puisque nous, au niveau de l'Association des femmes juristes, nous sommes juridiques. Mais il y a des associations comme l'ONG Nbou, que je salue, Madame Cissé, qui est une collaboratrice avec laquelle nous travaillons beaucoup. Et puis l'ONG Akwaba Mousso aussi qui permet aux femmes d'avoir un foyer au niveau psychologique, au niveau médical, tout ça. Donc on a beaucoup de partenaires avec qui nous travaillons. C'est pour dire à la population que les ONG sont là, elles sont disponibles. Donc ne pas avoir peur, mais de saisir la justice et d'avoir gain de cause. Voilà.
Et donc, docteur Dibi, vous collaborez beaucoup aussi avec toutes ces associations-là. Vous faites des sensibilisations un peu partout en Côte d'Ivoire. Racontez-nous un peu un cas concret où vous avez peut-être trouvé une femme qui avait peur de témoigner, de dénoncer. Et comment est-ce que vous avez réussi à la convaincre?
D'accord, merci. La sensibilisation est l'une des pratiques les plus usuelles en tant qu'organisation non gouvernementale. Et au sein même de l'ONG Bloom, nous faisons de la sensibilisation ciblée. Des fois, quand on constate qu'il y a un cas de VBG, un pic de VBG dans une zone quelconque, comme par exemple dans la région des montagnes ou dans les Guémons, et là, en collaboration avec les organisations, la société civile locale, nous travaillons pour pouvoir vraiment sensibiliser les acteurs là-bas. Mais aussi, nous faisons de la sensibilisation de masse, comme on le fait actuellement dans le cas des 16 jours d'activistes. Nous étions dans les Guémons, où on a passé 8 jours, plus d'une semaine, de sensibilisation en collaboration avec les leaders locaux, les autorités administratives et coutumières, qui nous ont permis quand même de rentrer dans les villages voisins à la région du Guémons et dans la région du Montagne. montagne également, pour sensibiliser au mieux les acteurs sur le risque donc, des VBG dans la région. Je rappelle qu'un jour, deux jours avant notre sensibilisation, on a eu un cas de VBG extrêmement dur où une jeune fille a été fusillée. Et aujourd'hui, nous encore, en tant qu'organisation féministe, nous sommes en attente donc, si, concernant la suite donc, si, de cette enquête. Et c'est pour dire qu'il faut vraiment beaucoup sensibiliser les populations sur les risques donc, ici, de ce fléau-là, au niveau donc, des populations rurales surtout. Nous faisons également de la sensibilisation en ligne. Et si vous allez sur notre page Facebook, on sensibilise beaucoup ceux qui nous suivent. Nous avons aujourd'hui près de 50 000 followers et ce n'est pas rien. Ces personnes-là, il faut les sensibiliser au mieux, les former. Et je chute là-dessus pour dire que nous faisons beaucoup de formations au sein de l'ONG Blouk. Et nous avons décidé donc cette année, avec les 16 jours d'activisme, de former les personnes ressources et de former les populations concernant ces fléaux-là. Un cas, nous avons reçu à l'ONG Blouk un cas de VBG et en collaboration justement avec l'association des femmes juristes, nous avons pu quand même régler ce cas-là avec beaucoup de tact parce que ça n'a pas été facile. On a commencé par quand même une prise en charge psychosociale parce que la personne était beaucoup traumatisée du fait donc ici de ses rapports avec son conjoint. Et pendant près de 10 mois, nous avons pu essayer de faire en sorte que cette personne s'accepte, accepte quand même qu'elle soit vivante, qu'elle soit une personne qui a de l'avenir. Et nous continuons de regarder de près ce dossier avec l'association des femmes juristes pour que le processus qui est engagé puisse aller à son terme. Voilà.
Ouais. Et donc on se rend compte que ce n'est pas un processus facile, ça prend des mois, comme vous l'avez dit.
Bien sûr. Ouais. Ce qui fait qu'à l'ONG Blouk, on accepte les personnes, les femmes, les survivantes, à hauteur de 3 mois au maximum. Même quand le cas est vraiment particulier, on excède au-delà. Et après ça, on prévoit également une prise en charge post-hébergement. Ce qui fait que quand la personne a fini le traitement à l'ONG Blouk, on lui conseille donc ici un appartement, en tout cas avec les partenaires qui viennent donc à notre secours également. Et ces personnes-là sont suivies jusqu'à ce qu'on soit sûr qu'elles peuvent maintenant affronter donc, le social. L'ONG Blouk, nous avons une maison d'accueil et de transit.
Maison d'accueil.
Voilà, qui a été la première étoile inaugurée le 28 décembre 2021 et avec une capacité de 21 lits actuellement. Et bientôt, un deuxième centre de 100 lits. De près de 100 lits à Djekwe. Et pour cela, le 7 décembre prochain, samedi 7, nous avons une soirée de bienfaisance pour récolter donc ici les fonds avec les uns et les autres pour pouvoir terminer ce centre-là de Djekwe pour vraiment le bonheur de ces femmes.
Oui. Et donc, un centre pour accueillir ces femmes-là, ce qui nous conduit donc à notre prochaine question, les recours qui sont disponibles donc pour les femmes qui sont victimes de violences, lorsqu'elles ne veulent pas tout de suite dénoncer, quels sont les recours dont elles disposent ? Lydie ?
Si une personne ne veut pas dénoncer, ça sera difficile de faire un recours. Parce que la priorité, et c'est ce qu'on demande aux femmes, c'est de dénoncer. Parce que si vous ne dénoncez pas, il sera difficile qu'on vous aide. C'est parce que vous comprenez avec moi, si vous avez un souci que vous n'en parlez pas, il sera difficile. Mais nous, ce qui est plus important pour une personne qui est dans un cas de violence ou bien un cas de traumatisme, il faut d'abord l'écouter. Parce que c'est l'écoute qui permet à la personne de pouvoir s'exprimer, de pouvoir te dire ce qu'elle ressent de bon. Donc, quand vous étiez en train de parler du cas, nous avons eu un cas personnellement que moi je suis, de quelqu'un qui va en mission avec son patron et qui est violé. Une dame qui est violée par son patron en pleine mission. Elle va porter plainte et on donne déjà l'argent au vigile. C'est qu'il est prêt à donner peut-être 1 million au vigile pour qu'ils disent que non, c'est faux, parce qu'ils l'ont vu quand même rentrer dans la chambre, puisqu'ils sont en mission, chacun dans sa chambre, qui rentrait la nuit, et la femme, elle se débattait, les gens ont entendu. Mais ce matin, il lui donne 1 million pour dire, faites comme si vous voyez comment c'est tellement grave. Et elle a mis du temps pour venir parce que c'est son patron. Et c'était encore plus difficile parce qu'elle est mariée. Est-ce qu'ils vont la croire? Son mari va dire, non, mais tu es avec ton patron il y a longtemps, il ne faut pas venir me raconter des histoires. Donc, vous voyez, c'est tellement difficile quand une personne ne souffre pas. Donc, c'est au fur et à mesure, c'est pour ça que c'est bon d'avoir un psychologue. Et nous sommes en partenariat avec l'ONG Blouk, des personnes comme ça, pour pouvoir permettre à ces personnes-là de pouvoir s'ouvrir et pour parler et voir à quel niveau on commence déjà la procédure judiciaire au niveau du tribunal. Voilà. Pour ces recours-là, on ne s'arrête pas si tôt, hein, comme il a dit, c'est très long. Il faut retenir que le viol, c'est un crime. Donc, comme c'est un crime, il faut vraiment que toutes les preuves-là soient mises à la disposition du procureur pour que vraiment on puisse aider la victime à pouvoir s'en sortir. Parce que vous ne pouvez pas comprendre lorsqu'une personne sort d'un viol. C'est traumatisant.
Mm-hmm.
C'est vraiment traumatisant. Les gens, ils pensent que et avoir des rapports sexuels enlevés, mais quand vous êtes violé, c'est toute votre vie, votre chair, c'est l'âme qui sort de vous parce que vous vous sentez sale. Vous vous dites, qu'est-ce que j'ai pu faire pour qu'on me fasse ça? Donc, vous-même, vous ne comprenez pas pourquoi c'est à vous que ça arrive. Donc, des personnes comme ça, il faut vraiment les encadrer, il faut les écouter avant même d'entamer une quelconque procédure.
Mm-hmm.
Voilà. Merci.
Elle a parlé effectivement de recours. Effectivement, le recours pour la victime, c'est la plainte. Comme elle a dit, si tu ne portes pas plainte, tu ne peux pas avoir de justice, en fait.
Mm-hmm.
Et au-delà de ça, j'avais dit en début d'émission, il y a dénonciation. Généralement, quand on prend le cas des mariages forcés précoces, après la célébration du mariage, la jeune fille ou la fille qui est âgée de plus de 18 ans rejoint son couple le soir, qu'est-ce qui se passe? Il faut valider. Et quand elles ne sont pas consentantes, vous allez entendre, les voisins vont entendre des cris. Ces voisins-là doivent pouvoir dénoncer.
Mmh.
Mais ce qu'on voit généralement, il y a un manque de dénonciation. Donc ça aussi, c'est une éducation qu'il faut inculquer à nos populations. C'est vrai, l'État met tous les moyens. La justice met tous les moyens. Nous avons les codes et tout. La loi qui nous permet d'avoir accès à la justice pour pouvoir faire défendre nos droits. Mais nous sommes réticents. Comme j'ai dit, les pesanteurs sociaux. Cette dernière-là, si elle va porter plainte, c'est même le nom du village même qu'elle a gâté. Donc, du coup, elle peut faire subir. Et dans ce mariage-là, quand c'est comme ça, c'est quoi? C'est le viol. Après, il parle de l'agression physique. Il y a plein d'autres violences qui gravitent autour de ce mariage-là. Donc, il faut qu'on apprenne à nos populations à dénoncer. Aussi, un autre fait. Il faut vraiment que les populations changent de paradigme. Nous avons un cas où la maman de la victime est décédée. Pourquoi? Suite au viol de sa fille de 13 ans. Parce que après le viol, le voisinage a commencé à la pointer du doigt, à la stigmatiser. Donc du coup, la maman même n'a pas pu supporter.
Mm-hmm.
Elle a fini par perdre la vie suite à cela. Et elle laisse la petite comme ça.
Oui, on se rend compte que les représailles aussi sociales...
Ce sont les difficultés même, ça nous permet de toucher même les difficultés même de la prise en charge.
Mm-hmm.
Des VBG en Côte d'Ivoire.
Oui. Donc, l'un des plus gros problèmes, c'est la société, dans laquelle nous sommes. Mmh. Est-ce que vous, docteur Dibi, à votre niveau, vous sensibilisez aussi les parents des victimes, les populations même qui sont autour?
Bien sûr, effectivement, ce que l'on peut faire, c'est la sensibilisation. C'est important. Actuellement, le problème qu'on rencontre généralement, aussi bien en milieu urbain que rural, c'est le manque d'anxiété de dénonciation, en fait. Parce que nous, en tant qu'organisation, on n'a pas s'auto-saisi. Il faut vraiment que la victime comprenne les biens fondés donc, de l'acte et qu'elle dépose. Et en ce moment, nous, en tant qu'organisation, nous accompagnons donc, le processus. Et généralement, on peut le voir ici, en milieu urbain, mais en milieu rural, c'est tout autre chose. Et madame vient de le dire, il y a toute une structure sociale qui englobe donc, ici le comportement des uns des autres. Vous ne pouvez pas vous lever comme ça pour dire que vous allez peut-être convoquer une personne sans toutefois avoir peut-être la visite du chef ou des parents de la victime, du bourreau. Parce que là-bas, on sait généralement qui a fait quoi et quand en milieu rural. Mais malheureusement, ces actes-là ne sont pas poursuivis jusqu'au bout parce que si vous le faites, vous avez mis en péril un certain nombre d'attributions d'une personne X, lambda, ou peut-être d'un poste de quelqu'un. Et c'est cette pesanteur socio-culturelle-là aujourd'hui que nous essayons de briser afin que ces personnes-là puissent dénoncer. Et aujourd'hui, quand même, les informations qu'on a eues, ça et là, nous reviennent pour dire que les autorités administratives, les sous-préfets et autres, ont eu un séminaire avec les chefs couronnés pour leur faire comprendre qu'ils arrêtent de couvrir les bourreaux des personnes et que s'il y a un cas de VBG, il faut les dénoncer pour le bien fondé, pour le bonheur même de ces victimes-là. Et aujourd'hui, à notre niveau, en tant qu'organisation de la société civile, nous encourageons ces gens de comportement. Parce que tant qu'il n'y aura pas de dénonciation, de prise de conscience de ce tat-là qui est un fléau aujourd'hui en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire, mais on ne pourra pas travailler comme il se doit avec tout l'arsenal juridique et humain qu'il y a actuellement en Côte d'Ivoire. Donc nous, à notre niveau, nous sensibilisons beaucoup. Et c'est en cela que cette année, nous avons décidé d'aller à l'intérieur, précisément dans le Guémon, pour sensibiliser au mieux durant les 16 jours d'activisme les populations locales et également administratives sur les bien fondés donc ici de la dénonciation et surtout du règlement à l'amiable qui réduit un problème dans ces sociétés-là. Voilà. Donc, c'est ce que nous sommes tentés de faire. Ce n'est pas facile, c'est un processus. Et nous sommes conscients que ce sera difficile, mais pas impossible. Pas impossible, parce qu'aujourd'hui, avec ce que nous avons fait durant les 16 jours d'activistes, en tout cas pour ce qui nous concerne, nous sommes toujours encore dans la sensibilisation, dans la campagne. Mais ce qu'on a fait déjà durant ces une semaine, là, nous a emmené à comprendre qu'il y a quand même un changement paradigmatique au niveau donc, ici, de ces populations qui sont en train de prendre conscience que les choses doivent changer.
Et ce qui est dommage, nous attendons qu'il y ait le pire, qu'il arrive le pire pour vraiment saisir la justice. Généralement, c'est quand il y a eu mort d'homme que les parents courent à la justice pour porter plainte. Nous n'avons pas besoin d'attendre qu'il ait la mort. Non, c'est ce qu'on veut dire.
Il faut éviter les règlements à l'amiable.
Mm-hmm. C'est ça.
Parce que comme je dis, le viol, c'est un crime. Au niveau de nos sociétés, les gens protègent plus l'auteur. Et c'est ce qui est dramatique. On se dit, bon, il ne faut pas, on va l'exposer, même s'il a viol. Mais on ne se soucie même pas de la victime. On te dit, toi, non, il faut laisser tomber, ce n'est pas grave. Tu vas, ils vont le mettre en prison. Mais l'acte qu'il a posé, là, qui est un crime, là, on ne pense pas à ça. Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'il faut dénoncer, pour que ces criminels-là ne se promènent pas dans les rues. Leur place n'est pas dans la rue. Leur place se trouve en prison. S'ils ont l'audace de pouvoir violer des personnes, il faut qu'ils puissent purger leur peine dans les prisons. Mm-hmm. Et c'est mieux. Donc, il faut éviter surtout les règlements à l'amiable. Et moi, je suis heureux parce qu'au niveau de l'ONG, mais que ce soit l'association des femmes juives, il faut vraiment former les leaders d'opinion, les leaders communautaires, nos leaders religieux, nos associations de femmes et de jeunes dans toutes nos régions pour que ces personnes sachent que le viol, ce n'est pas bon et que c'est un crime. Donc, il faut éviter de faire des règlements à l'amiable et c'est pénalisé. On a au moins notre code pénal qui a intrus ça dans le code pénal. Donc, il faut qu'on saisisse cette loi-là pour pouvoir attraper ces personnes-là qui violent nos enfants.
Et donc, pour nous qui sommes ici à Abidjan, qui n'avons pas eu l'occasion donc, de participer à ces séances de sensibilisation, qu'est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs ici, à la société par exemple? Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les sensibiliser aux dénonciations, Charlotte Kofi?
Merci. C'est le même processus. Hein. Même à Abidjan, nous faisons aussi des sensibilisations. Nous demandons aux populations de ne pas hésiter. Ils sont protégés par la loi.
Et surtout à ces parents-là qui protègent, par exemple, le frère ou l'oncle qui a violé.
Effectivement, quand tu protèges, tu deviens complice. Donc, on leur dit effectivement que si vous réglez à l'amiable ou que si vous protégez la victime, vous serez complice et vous allez purger la même peine que cette personne. Généralement, ces personnes sont en fuite, mais vous restez pour assurer les arrières. L'ignorance fait qu'ils ne savent pas qu'ils sont complices d'un acte. Donc, eux aussi, ils vont subir la loi. Donc, nous demandons à tout le monde de ne vraiment pas hésiter. Comme elle a dit, le viol, c'est un crime. Et puis, on parle du viol sur mineur. Le mineur qui a 15 ans et moins, lorsque tu vas avec lui, même avec son consentement, le code pénal le dit, c'est un viol. Même si c'est le mineur qui a acheté les préservatifs, qui a pris la chambre d'hôtel, la résidence, qui t'a dragué, comme on le dit de façon vulgaire, que tu vas, tu acceptes que tu vas avec ce mineur-là. Viol.
OK.
Voilà.
Et donc, vous sensibilisez toujours, hein, on va se tourner vers Dr Dibi. Qu'est-ce que vous dites donc aux hommes? Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne savent même pas que ce qu'ils font, c'est un viol. Par exemple, on parle de chat noir aussi, qui est considéré comme un viol. Ou d'autres même qui disent, ah, c'est ma femme, c'est ma copine, donc c'est j'ai certains droits sur elle. Voilà, elle ne peut pas me dire non.
Elle a 15 ans et puis voilà. C'est sa copine.
Vous, en tant qu'homme, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces hommes-là pour les sensibiliser aussi?
Ce que je peux dire, c'est que je demande aux hommes de se maîtriser. Voilà, de se maîtriser. Aujourd'hui, dans ma posture en tant qu'homme déjà, je réalise qu'il y a toute une batterie de lois qui entourent nos actions, qui gouvernent nos actions. Et il est important qu'on le sache parce que c'est l'ignorance qui nous amène à poser des actes ou à se retrouver dans une mauvaise posture. Et moi, je lance l'appel d'abord aux hommes de faire beaucoup attention aux actes qu'ils posent, surtout avec la femme. Parce qu'aujourd'hui, la femme a des droits qu'il faut respecter. Il faut connaître ces droits-là, ces droits humains d'abord, pour savoir qu'une fille de 15 ans n'est pas une personne qui peut être amenée à l'hôtel, à sa guise. Vraiment, tout ce que nous faisons est gouverné par des actions juridiques qu'il faille respecter. En tant que homme, il faut connaître cela si on ne veut pas se retrouver dans de mauvaises postures. Et c'est vraiment cet appel-là que je voulais dire, parce que c'est malheureusement le cas. Nous qui sommes beaucoup praticiens, nous rencontrons ce genre de cas, par exemple, en milieu rural. Je le dis parce que je suis beaucoup sur le terrain. Et en milieu rural, des différentes lois fondamentales là, ne sont pas connues des uns des autres. Nous rencontrons des jeunes filles de 15 ans, de 14 ans, qui sont dans des bistrots avec des personnes plus âgées. Et ces personnes-là, bien évidemment, ne savent pas qu'ils ne sont pas en droit d'être avec ces jeunes filles. Et malheureusement, ils ne le savent pas parce qu'ils ignorent le 3. Et donc, je pense que la sensibilisation va permettre aux uns aux autres, surtout aux hommes, de connaître vers qui aller et vraiment de prendre des dispositions idoines afin d'éviter beaucoup de choses dans la vie.
Mm-hmm.
Et en tant qu'homme, c'est ce que je voulais dire.
Ok.
On dit que les hommes, il faut chier.
Oui, il faut chier. C'est des défenseurs donc des droits des femmes.
Les hommes, il faut chier. On en a besoin des hommes. Des hommes, il faut chier.
Voilà. Et au sein de l'ONG Bloom, nous avons beaucoup d'hommes y fauchés qui travaillent donc ici en élan de collaboration avec toutes les femmes. Voilà.
Et donc, nous sommes à la fin de cette émission. Un dernier mot pour les femmes, pour les jeunes filles par rapport à leurs droits. Comment on peut les sensibiliser, elles? Qu'est-ce qu'on peut leur dire aujourd'hui pour éviter de rester cloisonnées donc dans le silence, pour vaincre cette peur-là qu'elles ressentent à chaque fois face aux agressions sexuelles?
Et dire aux filles d'avoir le courage. Il faut qu'elles soient des leaders, il faut qu'elles aient le courage, il faut qu'elles s'élèvent. Parce que c'est ça, il faut que nous nous levons. Parce que si nous sommes assis, personne ne viendra faire ça à notre place. Il faut que nous nous débattons, il faut que nous nous battons pour dire que nous sommes des personnes. Nous ne sommes pas des animaux. On ne peut pas violer une femme quand on veut, où on veut. On a une loi et Dieu merci, l'État de Côte d'Ivoire a mis cette loi-là dans le code pénal, et en tant qu'Ivoirienne, nous devrons nous lever pour saisir ces opportunités-là pour pouvoir combattre tous ces violets qui errent dans la rue. Et nous, au niveau de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, nous leur disons que nous avons toutes nos cliniques juridiques à l'intérieur du pays, comme Abidjan, elles peuvent s'approcher de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Parce qu'avec tous nos projets, nous avons pu quand même sensibiliser près de 50 000 personnes et près de 22 000 femmes sur le territoire ivoirien. Donc, nous leur demandons de s'approcher, de ne pas avoir peur et nous serons là pour les accompagner. Ça, c'est promis. Ouais. Merci.
Charlotte Kofi, un dernier mot?
D'accord. Je dirais, brisons le silence. Pour que nous soyons des femmes fortes demain, il faut dès à présent apprendre à penser nos blessures. Et dans ce cas des VBG, là, c'est de faire quoi? C'est de porter plainte. C'est de dénoncer lorsque nous avons un voisin, un parent qui est victime de VBG. Et de ne vraiment pas avoir peur de saisir les autorités compétentes. Et ce qui est souvent dommage lorsqu'on fait des sensibilisations, c'est vrai, en milieu rural, c'est un peu facile de regrouper les femmes. Mais ici, particulièrement à Abidjan, c'est un peu difficile. Or, on parle de leurs droits. Voilà, on leur demande. Lorsque vous voyez des activités de sensibilisation, que ce soit avec l'ONG Bloom, que ce soit avec l'AFVCI, de vous approcher, on ne sait jamais. Même si tu n'es pas encore victime aujourd'hui, tu peux être victime demain. Voilà. Donc on demande à toute personne, tous les auditeurs, de pouvoir véhiculer ce message-là et de quand même se former. Parce que c'est très important, tout passe par l'éducation.
Docteur Dibi, votre mot d'effet?
Ce que je peux dire, c'est vraiment de ne plus avoir peur. Je demande à toutes les femmes, toutes les filles, toutes les familles de ne plus avoir peur, de dénoncer. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, on essaie de le dire, est l'un des pays rares qui aujourd'hui prend ce fléau-là, prend le corps afin de l'extirper même de la société. La preuve en est qu'aujourd'hui, nous avons une communauté forte d'organisations qui travaillent dans ce sens-là. Aujourd'hui, nous avons, par exemple, comme vous l'avez dit, madame, nous avons Agob Bamousso. Nous avons également l'ONG Bloom qui est sur le terrain de jour comme de nuit. Nous avons aujourd'hui encore des lois. L'État de Côte d'Ivoire a permis une réforme des lois. Même la loi fondamentale ici permet aux acteurs d'être dans une posture de dénonciation et qu'ils soient protégés par la loi. Donc on peut aujourd'hui le faire partout en dénonçant quand on va dans les commissariats. Aujourd'hui, nous avons eu une avancée notable. La Côte d'Ivoire est l'un des rares pays qui a pris donc ici, au niveau de la direction de la police nationale, des spécialistes en VBG. Et quand vous allez aujourd'hui dans ces commissariats, nous avons des commissaires des officiers spécialisés dans les VBG. C'est une avancée notable dans la lutte ici contre les violences basées sur le genre. Et ça, c'est à saluer. Nous avons également des structures d'accueil, des maisons d'accueil et de transit pour les femmes, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays proches de la Côte d'Ivoire, d'Afrique de l'Ouest. Nous demandons une implication de ces populations-là, de ces familles, de ces victimes, vraiment quand il y a des cas de violences basées sur le genre. Cela nous permettra de vraiment combattre ce fléau-là partout, mais également de prendre les dispositions idoines afin d'éradiquer ce mal en Côte d'Ivoire.
Voilà donc qui est dit. Merci beaucoup, docteur Dibi. Et nous sommes à la fin de cette émission. On retiendra que tout part donc de la dénonciation. Pour toutes les victimes de viol, il ne faut plus avoir peur parce que l'État de Côte d'Ivoire a mis en place tout ce qu'il faut au niveau des lois et du suivi juridique donc pour faire ce qu'il faut pour vous faire justice. Vous n'avez plus à avoir peur. On a aussi nos ONG qui sont là, qui sont disponibles et disposées pour faire donc un suivi psychologique pour vous aider à vaincre ce traumatisme et à aller de l'avant. Et donc aujourd'hui, je rappelle, nous avons parlé de la lutte contre le viol et les agressions sexuelles, briser le cycle et agir pour la justice. C'était donc le thème de cette émission. Et nous avons reçu des femmes de l'Association des femmes juristes. D'abord, Yoboué Charlotte Kofi et Lydie Pascaline Kofi. Merci à vous, mesdames, d'être venues.
Merci.
Merci beaucoup. Merci.
Et nous avons aussi reçu Dr Alain Trésor Dibi, sociologue, expert en genre et directeur des projets à l'ONG Bloom. Merci aussi à vous, docteur.
Merci, madame. Le plaisir fut partagé.
Alors, sujet des discussions, c'est terminé pour aujourd'hui. Bonne suite de programme, mesdames et messieurs, sur Radio de la Paix.
C'était Sujet de discussion.